RFI, grand reportage, Laurence Adou.
Réélu triomphalement en octobre dernier pour un troisième mandat à la tête du pays, Evo Morales, c'est une révolution bolivienne à lui tout seul. Premier président indigène de l'histoire de la nation. Il a installé une stabilité politique inédite depuis le retour de la démocratie, c'était en 1982, et a fait adopter une nouvelle constitution, et a fortement réduit la pauvreté et les inégalités. Mais cet ancien leader syndical des producteurs de coca est aussi un personnage de contradiction qui allie tout à la fois discours anticapitaliste et politique économique applaudie par le FMI, prise de position éco-indigéniste et projet de développement destructeur de l'environnement. Evo Morales, devenu une figure de référence de la gauche radicale internationale, est-il vraiment le défenseur des pauvres et des Amérindiens, comme il se proclame, ou bien alors, comme ses adversaires l'en accusent, un arriviste aux dérives totalitaires ou encore un traître à la cause socialiste. Alors que l'hypothèse de le voir briguer un quatrième mandat en 2020 n'a rien de farfelu, plongeons au cœur de ce débat avec ce grand reportage en forme de portrait politique signé de notre correspondant en Bolivie, Reza Noumamod, que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage.
Hola, hola, uno, dos, tres, hola, 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 hola.
Bonjour à tous les étudiants, assistants et agents du processus de changement qui sont venus à l'école de formation politique de la génération Evo.
Un samedi après-midi dans la grande salle de conférence de la vice-présidence de l'État plurinational de Bolivie. Sur les chaises, une trentaine d'étudiants assistent au troisième cours magistral de formation politique du mouvement Génération Evo, une organisation de jeunes militants pro-Morales née à la fin de l'année dernière.
Dans la bibliographie obligatoire qui est en cours d'élaboration, il y aura le texte de Vladimir Ilitch Lénine, l'impérialisme, phase supérieure du capitalisme.
Ici, personne ne doute du caractère révolutionnaire de la politique d'Evo Morales. Valeria Silva, 25 ans, est toute nouvelle députée suppléante du parti au pouvoir, le MAS, Mouvement vers le socialisme.
Nous sommes convaincus que ce processus va durer. Ce n'est pas un printemps des peuples, ce n'est pas une expérimentation d'un gouvernement populiste. C'est la construction de la patrie qui n'existait pas jusqu'à il y a peu dans ce pays. C'est surtout la garantie d'atteindre ce que les peuples ont attendu pendant 500 ans de colonialisme et 200 ans de capitalisme, c'est-à-dire un gouvernement indigène autonome.
Une révolution socialiste et indigéniste qui serait celle d'un homme avant que d'être celle d'un parti. Sillonnant presque chaque jour le pays pour inaugurer des écoles ou des terrains de foot synthétique, multipliant les déclarations publiques, Evo Morales est omniprésent. Son nom ou son image accompagne l'exécution des grands projets de son gouvernement. Les jeunes membres de Génération Evo assument la personnification du processus politique en cours. Valeria Silva.
En Evo Morales, yo veo la historia.
Evo Morales, pour moi, c'est l'incarnation de l'histoire de ce pays. Il représente la pauvreté à laquelle a été poussée notre population indigène. Il est d'origine indigène et en même temps, il a l'expérience du syndicalisme paysan. En plus, c'est un homme de gauche. La Bolivie n'a jamais eu un président comme lui. La Bolivie est sortie de l'anonymat grâce à la voix du président Evo. Nous, les jeunes, nous nous préparons à servir dans l'armée du président Evo, à jouer un rôle politique. Et sous les ordres du commandant Maximo de cette révolution, c'est-à-dire le président Evo. À Génération Evo, notre objectif c'est de garantir qu'Evo Morales continue de gouverner ce pays au-delà des 5 années à venir.
Non solo por los 5 años que restan.
Aujourd'hui, sans rival politique, ni dans l'opposition, ni dans son propre parti, Evo Morales n'avait pourtant rien pour devenir président dans un pays jusqu'ici toujours gouverné par les élites blanches et métisses. Né en 1959 sur l'altiplano bolivien dans une famille pauvre de paysans aymara, il se fait connaître en tant que leader syndical des producteurs de coca. feuilles sacrées des peuples andins, mais aussi produits de base pour la fabrication de cocaïne. Dans les années 90, il combat l'éradication forcée de cette plante menée sous l'égide des États-Unis. Les exactions menées à cette époque contre les paysans cocaleros forgeront ses convictions politiques. Député en 1997, il est élu président en 2005 dès sa deuxième tentative. Depuis, il enchaîne les victoires électorales et se fait réélire dès le premier tour en octobre dernier. Pendant la campagne, Evo Morales ne change rien à un discours qui le fait gagner depuis 10 ans.
Nous avons lutté et lutté contre l'empire nord-américain. Le peuple est anticolonial. Le peuple est anti-impérialiste. Le peuple est anticapitaliste. C'est ce qui nous unit pour encourager la libération de tout le peuple bolivien.
Si le discours n'a pas varié, la politique d'Evo Morales n'a pas toujours été radicale. Pour l'économiste Carlos Toranzo, l'anticapitalisme affiché du MAS est un leurre.
Le modèle économique actuel d'Evo Morales, et qui est plutôt un succès, est un modèle de capitalisme d'État. Ce n'est pas, comme il le dit dans son discours, un socialisme nouveau, ni un capitalisme andin-amazonien, comme l'avait suggéré le vice-président Garcia Linera. C'est en fait une réédition de ce qui s'est déjà fait en 1952. Un capitalisme d'État, une économie mixte, et une forte présence de l'entreprise privée.
Un avis partagé par Raoul Prada, intellectuel de la gauche indigéniste et ancien compagnon de route d'Evo Morales.
Qui a gagné plus que durant les gouvernements néolibéraux? La bourgeoisie, la banque, l'agro-industrie? C'est le meilleur gouvernement qui soit pour la bourgeoisie. C'est le gouvernement néolibéral le plus abouti, qui a rempli tous les critères du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et il a été récompensé. Le modèle bolivien, qui selon Evo Morales est le modèle révolutionnaire qui doit être exporté, c'est en réalité celui du FMI et de la Banque mondiale. C'est un modèle monétariste et extractiviste.
Son monetaristas y extractivistes. Ese es el modelo.
La posture anti-impérialiste est en revanche plus cohérente chez Evo Morales. En 2008, il expulse du territoire bolivien l'ambassadeur des États-Unis, accusé de conspirer contre son gouvernement. Pablo Stefanoni, journaliste et politologue argentin, est fin connaisseur de l'histoire politique bolivienne.
Esa tradición cocalera se engancha con una tradición antiimperialista.
La tradition des paysans producteurs de coca est liée à la tradition anti-impérialiste. Dans bien des domaines, Evo Morales a pu modérer son discours ou changer de position, mais l'anti-impérialisme s'est toujours maintenu comme le noyau dur de son idéologie, ce qui permet de faire le lien avec toute une série de traditions politiques latino-américaines, comme le nationalisme populaire. Evo s'inscrit dans cette tradition, comme par exemple le péronisme en Argentine. Cela permet aussi de comprendre ses liens avec Cuba ou le Venezuela.
También permite entender sus vínculos con Cuba o Venezuela.
La différence, c'est que dans le cas d'Evo Morales, il s'agit d'un nationalisme indigénisé. C'est une sorte de nationalisme de gauche qui a permis de regrouper dans le MAS, qui est très particulier, car c'est un parti de mouvement et d'organisation sociale, la majorité de ce qu'était la gauche traditionnelle bolivienne, mais aussi les secteurs indigénistes, les secteurs nationaux populaires. Ce qui a formé un bloc idéologiquement toujours très pragmatique, mais qui maintient certains axes ferme, comme la décolonisation, l'anti-impérialisme ou encore l'idée d'un État fort dans le domaine économique. Ce sont les lignes maîtresses qu'a toujours suivi Evo Morales au cours de ces presque 10 dernières années.
Esos son como quizá las líneas maestras que Evo Morales en estos casi ya 10 años mantuvo.
Un anti-impérialisme qui redessine également la carte des alliances géopolitiques de la Bolivie. Pablo Stefanoni.
Le nationalisme latino-américain a toujours cherché des contrepoids au pouvoir global des États-Unis. Et la plupart du temps, ces alliances se font sans regard critique sur les régimes des pays alliés. Par exemple, la Bolivie a eu des liens très forts avec l'Iran du président Ahmadinejad. Evo Morales l'a même appelé son compagnon révolutionnaire, ce qui n'était sûrement pas l'avis de la gauche iranienne. C'est une vision très géopolitique de la politique. On se rapproche ainsi de Poutine ou d'Assad en Syrie. Quiconque affronte les États-Unis devient un allié potentiel, sans se préoccuper de ce que vivent les peuples de ces pays.
Por ejemplo.
Mais bien plus que ces considérations géopolitiques, c'est une crise interne qui marque la rupture entre une partie de la gauche bolivienne et le gouvernement d'Evo Morales. En 2011, le chef d'État défend bec et ongles la construction d'une route dont le tracé traverse une réserve naturelle et territoire indigène protégé. Morales, autoproclamé défenseur de l'environnement et des peuples indiens, est désavoué par ses anciens alliés, comme son ex-vice-ministre des Terres, Alejandro Almaraz, qui participe aux mobilisations contre le projet routier.
Il a trahi le mouvement indigène et il a trahi le peuple bolivien. Il a violé des droits constitutionnels inscrits dans cette constitution, née du processus de changement, née de la volonté majoritaire du peuple bolivien.
Pour Pablo Stefanoni, ce dossier symbolise la principale contradiction du personnage Evo Morales.
La principale tension discursive et politique du gouvernement,
c'est la plus forte tension politique du gouvernement. Il y a d'un côté la défense de la Pachamama, la nature, et tous ces discours tenus lors des sommets alternatifs sur le climat. Et de l'autre côté, un imaginaire de développement où prédomine une vision des années 50 avec l'idée d'un saut industriel. C'est pour cela qu'on parle d'énergie nucléaire, d'industrie lourde, etc.
Lo cual no es obvio que Bolivia lo pueda hacer.
Pourtant, il n'est absolument pas certain que la Bolivie puisse y parvenir. Et il aurait peut-être mieux fallu s'inspirer de l'expérience de petits pays qui ont choisi des voies de modernisation et d'industrialisation moins grandiloquentes, mais plus efficaces.
Quizás no tan grandilocuentes, pero más efectivas.
Prado, Universidad de Plaza del Estudiante, 6 de agosto, Prado, 6 de agosto. Prado, Universidad de Plaza del Estudiante, 6 de agosto, Prado, Universidad de
Plaza. Avance, señor.
Partisan d'une révolution beaucoup plus ample qui remettrait notamment en question l'État-nation, Raúl Prada estime qu'il ne faut pas se focaliser sur Evo Morales.
Il était chargé des sports dans son syndicat. Peut-être qu'il ne s'intéressait même pas à la politique, mais il y a été poussé, parce qu'il était sympathique, charismatique. La gauche internationale aussi l'y a poussé, parce qu'elle avait besoin d'un Che indigène. C'est une victime de ces jeux de pouvoir, des jeux de pouvoir qui créent des colillos, qui créent des héros, qui veulent des épopées. C'est une idéologie conservatrice, mais ils ne croient pas aux gens, ils ne croient pas en la multitude, ils ne croient pas au collectif, ils ne croient pas en la démocratie participative. Malheureusement, dans ce débat, dans cette lutte, nous avons perdu. Nous aussi, nous nous sommes trompés. Nous sommes co-responsables. Quand nous étions encore forts, nous aurions dû maintenir la mobilisation. Mais d'une certaine manière, nous nous sommes aussi laissés bercer par le mythe du caudillo. Nous connaissons les limites d'Evo Morales. Mais quand il a été élu, ça a été la fête. Les Aymaras de l'Altiplano sont descendus et ils ont pleuré sur la place Murillo. Ils n'arrivaient pas à croire ce qui était en train de se passer. C'était impressionnant. Nous, nous nous sommes laissés emporter par le sentimentalisme et nous avons décidé de ne pas gâcher la fête. Nous avons décidé de soutenir et de ne pas critiquer. Alors qu'il aurait fallu le soutenir, mais de façon critique, en restant mobilisé. Nous sommes co-responsables. Le problème, ce n'est pas ceux qui sont en haut, car ceux qui sont en haut sont perdus. Ils sont cooptés par le pouvoir. Le problème, c'est nous qui les laissons faire ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas capables de défendre nos droits. Il y a une complexité, un conservatisme chez ceux qui luttent.
Il y a une complexité, il y a un conservadurisme en los que luchan también.
En près de 10 ans au pouvoir, Morales aura en tout cas indéniablement transformé la Bolivie. Pablo Stefanoni.
Ce qui s'est produit en Bolivie et qu'on ne peut pas nier, c'est une sorte de révolution culturelle qui a bouleversé tous les imaginaires sociaux et toutes les hiérarchies qui avaient été construites dans le pays après l'indépendance au XIXe siècle. Cette discrimination coloniale, ce colonialisme interne qui avait perduré. Il y a bien eu un processus de décolonisation.
Il y a eu un processus de décolonisation dans le sens de que hay mayor igualdad.
Aujourd'hui, il y a plus d'égalité. Et sur la photo de famille, qui serait, disons, la nation, il y a désormais tous les Boliviens, et non plus uniquement une petite élite métisse. Il y a aussi une hausse de l'estime de soi nationale. D'abord parce qu'Evo Morales est le premier président bolivien dont la voix a une portée globale, et ensuite parce que la Bolivie s'est positionnée de façon différente dans le concert international des nations, pas seulement par rapport aux États-Unis.
Accusé par ses adversaires de vouloir rester indéfiniment au pouvoir, Evo Morales entame son troisième mandat en bénéficiant d'une popularité toujours aussi élevée et s'apprêtant même à battre le record de longévité présidentielle en Bolivie. Evo Morales, portrait politique, un grand reportage de Reza Nurmagomedov, réalisation Eva Mojinski.
Reza Nurmagomedov, bonjour.
Bonjour Laurent.
Vous êtes notre correspondant à La Paz et l'auteur de ce grand reportage. Alors vous le précisez à la fin de votre reportage justement, Evo Morales jouit encore aujourd'hui d'une popularité impressionnante en Bolivie alors qu'il est dans sa 10e année de pouvoir.
Oui, le dernier sondage date du mois de janvier dernier et il indiquait un taux d'approbation de 76% pour le président bolivien. Morales serait, d'après cette enquête, le chef d'État le plus populaire d'Amérique latine devant l'ancien président uruguayen Pepe Mujica et le président de l'Équateur Rafael Correa. Alors, même s'il faut rester évidemment prudent devant ce genre de sondage, on peut rappeler qu'en octobre dernier, Evo Morales a été réélu triomphalement à la tête de la Bolivie avec 61% des voix, largement devant le candidat de centre-droit Samuel Doria Medina, qui n'a obtenu que 24% des suffrages.
Alors cette question aussi, bien sûr, les élections régionales et municipales de mars dernier ont tout de même été moins brillantes pour Morales.
Oui, effectivement, puisque le parti MAS du président a perdu deux de ses bastions politiques, El Alto, qui est la deuxième ville du pays, et la région de La Paz. Des défaites symboliques, essentiellement dues à des scandales de corruption qui avaient éclaboussé les candidats du MAS quelques semaines à peine avant le scrutin. Mais au niveau national, le parti de Morales s'est maintenu comme la première force politique du pays, et de loin, en remportant notamment 225 des 339 commune de Bolivie.
Alors, on dit que Morales pourrait postuler pour un quatrième mandat. Qu'en est-il ?
Oui, et même si l'échéance est encore bien lointaine, puisqu'on parle de 2020. Alors, la possibilité existe bien, tout d'abord car le MAS possède 2/3 des sièges au Parlement et peut donc théoriquement voter une réforme de la Constitution pour permettre au président de briguer ce quatrième mandat. Evo Morales n'a de plus jamais écarté cette possibilité, se contentant seulement de dire que le sujet n'était pas à l'ordre du jour. Politiquement, l'idée n'est pas non plus saugrenue, car après 10 ans au pouvoir, Morales, on l'a vu, est toujours populaire et surtout, aucune figure n'a surgi qui pourrait être capable de rivaliser avec lui, que ce soit dans son propre camp ou bien dans l'opposition. Enfin, le président s'appuie sur un très bon bilan économique et social, avec notamment 5% de croissance moyenne annuelle sur les 8 dernières années et une forte réduction de la pauvreté.
Enfin, dans votre grand reportage, vous parlez de ce projet routier qui avait généré une fracture entre le gouvernement d'Evo Morales et une partie de la gauche bolivienne. Est-ce que ce projet serait de retour ?
Alors ce projet avait généré l'une des pires crises politiques qu'ait connu le président bolivien. En 2011 et 2012, les indigènes du Tipnis, le territoire menacé par le tracé routier, avaient organisé 2 longues marches pour protester contre ce projet et avaient finalement réussi à contraindre Evo Morales à renoncer publiquement à la construction de la route. Or, en avril dernier, le chef d'État a déclaré que cette route se construirait tôt ou tard, avec ou sans acceptation. Il faut savoir que ce projet est réclamé par le syndicat des paysans cocaleros du Chaparé, dont Evo Morales est encore aujourd'hui officiellement le président.
Ce sera le mot de la fin, un grand reportage bien entendu à réécouter sur RFI.fr dans son intégralité. Reza Nurmagomedov, merci beaucoup et bonne journée.
La sélection du monde.